Bokertov les filles, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc là j'ai eu envie comme c'est la période du Homer, la période où on commémore la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, où on lit le Pirkei Avot, où on travaille nos midot. Donc je voulais vous raconter l'histoire de la femme de Rabbi Akiva. Mais je vais aussi quand même vous raconter, quand même, on ne peut pas raconter l'histoire de la femme de Rabbi Akiva sans parler de notre maître Rabbi Akiva. Sa vie a été 120 ans, il a vécu 120 ans d'une vie extraordinaire, remplie d'enseignements pour nous. C'était il y a environ 2000 ans, mais sa vie, elle est tellement incroyable. C'est sa façon, toute sa vie, qu'il a recherché l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est un exemple pour toutes les générations et encore une fois, gravé dans notre ADN. Gravé dans notre ADN. Donc, l'histoire de Rabbi Akiva commence comme ça. Donc, on est juste après la destruction du second temple. Donc, au tout début de notre ère. Voilà, on est dans les années, on va dire, entre les années 50 et les années 150. On va dire comme ça. Donc, Rabbi Akiva, lui, il vient d'une grande lignée du côté de Sisra. Alors, Sisra, c'était un rachat qui a été tué par Yaël. Donc, il vient d'une lignée, je ne sais plus si c'est son père ou si c'est son grand-père qui se sont convertis au judaïsme. Parce qu'il faut quand même savoir qu'à cette époque-là, malgré le fait que Rome a détruit le Beth Amikdash, il y a eu beaucoup quand même, il y avait beaucoup d'échanges entre Israël et Rome. Et il y a les sages, les Tanaïm de l'époque, ils faisaient les va-et-vient entre Israël et Rome. Et il y avait quand même un parfum tellement de sainteté et de Kdusha que les nobles romains commençaient à s'intéresser au judaïsme. C'est très paradoxal puisque leur seul objectif du roi, de l'empereur romain qui était un monstre Titus à l'état pur, Vespasien, Titus et son frère Domitien, c'était des monstres à l'état pur. Ils avaient qu'une envie, c'était de massacrer le peuple d'Israël. Mais la noblesse aristocratique romaine, elle était, ils étaient férus de philosophie, férus de science. Ben, eux, ils voyaient, bien qu'ils voyaient la Torah de manière une science, comme une autre, comme les mathématiques, la philosophie, ben quand même, quand on s'intéresse à la Torah, on peut que être ébloui par la sagesse et par l'authenticité, par toutes ces qualités que possédait les Tanaïm. Je n'ose même pas imaginer les qualités que possédait les Tanaïm. D'accord? Donc, on a quand même beaucoup, pas mal de nobles aristocratiques romains qui étaient très intéressés par la Torah, et il y en a même qui allaient jusqu'à se convertir au péril de leur vie. Voilà, au péril de leur vie, parce que s'ils se faisaient attraper, ils se faisaient massacrer, cousins du roi ou neveux du roi, ils étaient en danger de mort. Donc, on a le père ou le grand-père de Rabbi Akiva qui se convertit, qui vient habiter en Eretz Israël. Maintenant, Rabbi Akiva, lui, jusqu'à l'âge de 40 ans, il était complètement ignorant. Il avait une confiance en Akadosh Baruch Hu, mais il était ignorant. Il ne savait ni lire, ni écrire, il ne connaissait pas les lettres, il ne savait même rien, rien. Et, fait quand même extraordinaire, il détestait tout ce qui était les Tanaïm. Il pensait que, enfin les Rabbanim, il pensait qu'ils étaient hautains, qu'ils voulaient que le fait qu'ils étudiaient la Torah, que leur connaissance mettait une distance avec les gens du peuple comme lui. Et il prenait ça pour il prenait ça pour de, pour d'une façon hautaine. Il croyait que les Tanaïm, enfin les Rabbanim de l'époque, ils étaient hautains et qu'ils méprisaient le peuple. Donc un jour, notre Rabbi Akiva, notre Akiva, qui était berger, qui était très très fort physiquement, il cherche du travail et il se présente. On lui recommande d'aller chercher du travail chez un homme richissime qui s'appelle Kalba Savoie. Alors, Kalba Savoie, ce n'est pas son nom, mais c'est son surnom. Kalba Savoie, ça veut dire un chien rassasié, parce que dans la maison de Kalba Savoie, il était tellement généreux et il recevait tellement, tellement bien ses hôtes que même un chien qui rentrait affamé, il ressortait rassasié. Et il faut savoir que Kalba Savoie était richissime. À l'époque, avant la destruction du deuxième Beth-Amigdash, il faisait partie des trois personnes qui étaient les plus riches de Jérusalem. À eux trois, Kalba Savoie et les deux autres personnes, ils avaient de quoi, ils avaient suffisamment dans leur entrepôt de blé, d'eau et de. Je me rappelle plus c'était quoi le troisième élément, pour tenir un siège de 21 ans. Maintenant, ce qui s'est passé à l'époque, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu ce siège de 21 ans, c'est qu'il y a des gens parmi le Ham Israël qui voulaient la guerre et ils ont mis le feu aux entrepôts. Comme ils ont mis le feu aux entrepôts, bah, il n'y avait plus de quoi tenir le siège et c'est comme ça que Jérusalem est tombée. Donc, Kalba Savoie était très immensément riche. Donc, il est sorti de Jérusalem, puisque à l'époque, à Jérusalem, on ne pouvait plus habiter. Et il avait une grande, 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 grande propriété. Et il cherchait un intendant parce que, il ne pouvait pas tout gérer. Il y avait entre les troupeaux, les récoltes. Et il avait malheureusement commencé à avoir un petit peu. Il avait remarqué qu'il y avait des malfaçons. Voilà, il faut vraiment quelqu'un. Il lui fallait un intendant avec de la poigne et qui est Yirat Shamayim. Donc Akiva, il se présente devant Kalba Savoie et il lui dit, voilà, je cherche du travail. Et Kalba Savoie l'embauche parce qu'il a détecté que c'était quelqu'un quand même avec de grandes qualités, bien qu'il était ignorant. À chaque fois que Kalba Savoie, il essayait de parler avec Akiva, le berger, ça partait un petit peu en pugilat parce que, vu la version qu'avait Akiva à cette époque pour les rabbanim. Et dans notre histoire apparaît notre Rachel, Rachel bat Kalba Savoie. Rachel était une jeune fille très, 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 très intelligente et qui savait, comme on va le voir au-delà des apparences. Elle ne se laissait pas du tout aveugler par sa richesse et par sa position de noble. Et quand elle a vu Akiva, le berger, qui était somme toute ignorant, elle a su détecter, déceler des qualités que personne d'autre n'avait vues. Elle était persuadée qu'il pouvait être un grand d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir Rabbi Akiva. Enfin, Akiva. Et pas de suite, hein, on se doute bien. Et elle est allée le voir et lui a dit, écoute, je suis sûre que tu peux devenir un grand d'Israël. Alors au début, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne sais même pas lire, je ne sais même pas écrire, je suis un ignorant. Au début, il ne comprenait pas ce qu'elle voulait. Et elle, à force d'insister, elle a fini par lui dire, je suis prête à t'épouser si tu me promets que tu consacres ta vie à la Torah, à l'étude de la Torah. Et tu vas voir que. Alors, il a commencé à lui poser des questions et elle lui disait, mais moi, je n'ai pas. Tu demandes à une jeune fille innocente et ignorante de répondre à des questions essentielles, alors que si tu mets ta tête dans la Torah, tu auras des réponses à toutes tes questions. Et voilà que il accepte. Il accepte de s'engager à étudier la Torah en échange du mariage avec elle. Ils vont voir Kalba Savoie qui monte en colère noire et qui les chasse. Il répudie sa fille. Il lui dit voilà, il lui dit si tu veux te marier avec un ignorant, pas c'est pas forcément le fait que Rabbi Akiva était pauvre qui dérangeait Kalba Savoie, c'est le fait qu'il était ignorant. Parce que quand même Kalba Savoie, sa maison était le lieu de rencontre de tous les grands rabbanim de l'époque. Ce qui fait que Rachel, elle était quand même elle voyait comme elle était en contact avec tous ces grands rabbanim, tous ces grands tzadikim, tous ces grands tanaïm. Et c'est certainement ça qui a allumé la flamme de l'amour de la Torah dans le cœur de Rachel bat Kalba Savoie et qui l'a poussée à risquer sa place, sa position pour cette Torah qu'elle aimait tant. Et ils se retrouvent donc à la rue, tous les deux. Ils vont se marier. Ils habitent. Donc, avant de partir, elle a le temps de prendre un petit peu d'affaires à elle, qu'elle revend. Et avec ça, ils achètent une petite chaumière, avec vraiment le strict minimum. Et elle dit à Rabbi Akiva, maintenant, Moi, j'ai fait ma part du travail, ma part du marché. À toi d'accomplir le reste. Tu dois aller étudier la Torah. Maintenant, il faut comprendre que Rabbi Akiva, 40 ans, qui ne connaissait pas le Aleph Bet. Donc, il faut reprendre depuis le tout début. Elle lui dit, il faut que tu ailles au Gan avec ton fils. Alors, il lui dit, mais ils vont se moquer de moi. C'est très difficile pour la fierté d'un homme comme ça de se retrouver dans un Gan avec des enfants de 3-4 ans. Elle lui dit, regarde, encore sa sagesse, les gens finissent par s'habituer à tout. On va faire une expérience. Elle lui dit, prends un âne, tu vas mettre de la terre sur son dos et tu vas lui mettre des fleurs et tu vas aller au marché. Donc, il a fait ça. Quand il est arrivé au marché, tout le monde s'est moqué de lui. Qu'est-ce que c'est que cet âne avec des fleurs? Elle est revenue, il a dit, ils se sont moqués de moi. Eh ben, c'est pas grave, vas-y demain. Elle lui a dit de faire ça pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que les gens, à la fin, se soient habitués. Il faisait plus attention à cette âne insolite avec des fleurs sur son dos. Donc, c'est comme ça que Rabbi Akiva, il s'est dit, bon, ok, elle a raison, hein, on s'habitue à tout. Donc, il commence à rentrer dans le cheder et il commence à apprendre. Et il commence à apprendre, mais pas seulement, il commence à apprendre Aleph Bet, parce qu'il était quand même savant, puisqu'il était intendant d'une grande maison, il avait quand même pas mal de connaissances et il avait une curiosité intellectuelle qui le poussait à comprendre pas seulement ce qu'on apprend, mais la profondeur des choses. C'est ce qui caractérise Rabbi Akiva, la profondeur des choses, pas seulement le superficiel, savoir comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'Hachem, il a écrit des lettres, il a fait les lettres Aleph, Bet, Gimel, Dalet, pourquoi de cette manière? Pourquoi les lettres elles sont formées de cette manière? Il a vraiment cherché la profondeur de chaque chose. Donc, on est Rabbi Akiva qui commence à chercher un maître et il trouve Nahum Ish Gamzo. C'était un tzaddik, un très 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 grand tzaddik. Et Rabbi Akiva, il s'assied au pied de son maître qui accepte de prendre sous son aile un complet ignorant, un complet débutant, on va dire, un grand débutant, alors qu'il avait une yeshiva avec des des élèves qui étaient à un niveau beaucoup plus supérieur que Rabbi Akiva. Il accepte de le prendre sous son aile parce que Rachel, elle va le voir et elle lui dit tout le monde savait qui était Kalba Savoie, tout le monde savait qui était la fille de Kalba Savoie. Et quand il a compris qu'elle avait sacrifié son monde matériel pour le monde spirituel de son mari, il a été tellement impressionné qu'il a accepté de prendre Rabbi Akiva. Pour comprendre qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les allocations familiales, il n'y avait pas le chômage. Ça veut dire, à la rue, elle est à la rue. Plusieurs personnes avaient essayé de faire la paix de rapprocher le père et la fille. Bah non, ça n'a pas marché. Il était très 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 en colère, Kalba Savoie. Donc, on a notre Rabbi Akiva qui commence à s'intéresser de plus en plus à la Torah. Il voit que c'est pas une science, c'est la vie. Tout simplement, c'est la vie. Au début, c'est très compliqué pour lui. Il voit qu'il comprend pas. Vraiment, c'était très très difficile parce que il a pas grandi dans cette ambiance, il n'a pas grandi dans cette façon de réfléchir. Au début, il pense même à se décourager. Donc un jour, il va sur un ruisseau et enfin, il va se balader. Il voit un ruisseau et il voit une pierre avec un gros trou. Et il se dit que c'est bizarre, une pierre avec un gros trou en plein milieu du ruisseau. Il se rend compte que il y avait des gouttes qui tombaient tout le temps, tout le temps, tout le temps au même endroit de cette pierre et qui, à force de tomber au même endroit, l'eau qui n'a aucune force et aucun pouvoir de percer, a réussi à percer un trou dans la chose la plus dure, une des choses les plus dures qui existent au monde, une pierre. Donc il s'est dit, l'eau, c'est comme la Torah. Si je persévère et que je persiste dans mon apprentissage, ça va pénétrer mon âme, mon cœur, et je vais comprendre. Et c'est comme ça qu'il a persévéré. Donc, Rabbi Akiva reste 12 ans au pied de son maître, Nahum Ish Gamzo, puis d'autres grands Tanaïm de l'époque, Rabbi Eliezer ben Hyrcanus, Rabbi Yoshua ben Hanania. C'est vraiment des Tanaïm qu'on voit dans la Mishnah et dans la Gemara. Et au bout de 12 ans, il commence a vraiment, vraiment, pendant plusieurs années, il ne dit rien, à tel point que ses collègues pensent que qu'il est idiot, quoi, qu'il comprend pas. Et jusqu'à ce qu'un jour, il y a quelqu'un qui lui dit, il faut que tu parles parce que c'est pas bon pour toi de ne pas parler. Et dès qu'il commence à ouvrir la bouche, ils sont tous ébahis par sa sagesse et par son pouvoir de réflexion. Il part 12 ans, donc loin de sa famille. Au bout de 12 ans, il revient. Et il revient chez lui et il entend des voix qui crient. Et sa voisine, la voisine de Rachel, elle lui dit, encore combien de temps tu vas être la veuve d'un vivant? Ça fait 12 ans que ton mari t'a abandonné. Retourne chez ton père, va lui dire pardon. Et comme ça, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir avoir une vie correcte. Et Rachel qui dit à sa voisine, si mon mari pouvait m'entendre et repartir 12 ans de plus pour étudier cette Torah pour laquelle moi je me suis sacrifiée et que je veux qu'il étudie, alors qu'il reparte. Je ne verrai pas d'inconvénient. Et c'est ce qui fait Rabbi Akiva. Il entend ça, il repart aussi sec sans même dire bonjour à sa femme. Il repart pour 12 années supplémentaires. Au bout de 24 ans, en tout, qu'il a quitté son foyer, il revient avec 24 000 élèves. 24 000 élèves. Et quand Rachel, elle entend que son mari revient en ville avec ses 24 000 élèves, elle va s'approcher de lui. Et elle lui dit, elle va pour s'approcher de lui. Et les élèves qui voient une femme en haillons qui s'approche, ils se mettent en barrière pour ne pas s'approcher, pour pas qu'ils s'approchent de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il leur dit, laissez-la passer, c'est ma femme. Toute ma Torah et toute votre Torah lui appartiennent. C'est grâce à elle que je suis arrivée où j'en suis. Rachel est la clé de la réussite de Rabbi Akiva. Elle a su voir au-delà des apparences. Elle a su voir au-delà des. Elle a su sacrifier. Elle s'est sacrifiée son monde matériel pour pouvoir avoir un grand de la Torah. Elle était persuadée que Rabbi Akiva était celui qui allait sauver la Torah de cette époque où les Béné Israël, le mental et le moral des Béné Israël, il était au plus bas. On était après la destruction du Beth Amikdash. Il y avait des persécutions en veux-tu en voilà. Celui qui se faisait surprendre en train d'étudier la Torah, il se faisait massacrer. Donc c'était très très facile. Je juge personne, hein. Mais ça devait être très facile de se dire, écoute, la vie ou la Torah, bon voilà quoi. Alors, Rabbi Akiva, ce qui caractérise Rabbi Akiva, c'est cette émouna incroyable qu'il a construite par lui-même, pas parce qu'on lui a forcément enseigné, pas parce qu'il a grandi dedans. Il a eu 24 000 élèves et malheureusement, on dit que les 24 000 élèves ne se respectaient pas les uns les autres et ils ont tous péri pendant 33 jours. Ils sont tous morts d'une épidémie. 700 levaïot par jour. Je ne sais pas si on réalise, il vaut mieux pas réaliser, que Rabbi Akiva, 700 levaïot par jour. 24 000 élèves, ça veut dire au moins 20 000 veuves. Au moins, s'il y avait deux enfants par famille, peut-être 50 000 enfants qui se retrouvent orphelins. Et l'épidémie s'arrête au 33e jour. Et ça s'arrête. Pourquoi on fait une fête? Parce que Rabbi Akiva, il devait aussi mourir ce jour-là et que la Xéra ne l'a pas touché. Et n'importe qui se serait laissé abattre. N'importe qui aurait dit, écoute, j'ai essayé. 24 000, et il y en a 24 000 qui sont morts, il n'y en a pas un qui est resté vivant. Eh ben voilà, j'ai fait mon job, je vais aller me terrer. Non, ce n'était pas du tout le caractère de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a fait après les 24 000 élèves qui sont morts, une fois qu'il a enterré tout le monde, une fois qu'il s'est assuré que chacun avait. C'était le responsable de la caisse de Tzedaka à l'époque. Il s'est occupé de chacun. Il est parti dans le sud et il est allé chercher encore 5 élèves. De ces 5 élèves, on a récupéré toute la Torah. Et la flamme de la Torah, elle s'est allumée de plus belle. Puisque parmi ces 5 élèves, il y avait Rabbi Meir Balanes et il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui ne connaît pas Rabbi Meir Balanes, qui ne connaît pas Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce qu'on voit de là, c'est que toute la vie de Rabbi Akiva, il a vécu 120 ans. Toute la vie de Rabbi Akiva, rien ne lui a été servi sur un plateau. Rien ne lui a été servi sur un plateau. Tout est venu par la force de sa volonté et par cette fille-là. Par cette fille-là. Il ne regardait que à Kadosh Baruch Hu. Et ce qui caractérise Rabbi Akiva, la force de sa émouna. La force de sa émouna qui a permis de vivre sa vie dans le bitachon. Parce que la émouna, c'est croire en Akadosh Baruch Hu, croire que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien, croire que Hakol et Tova. Mais le bitachon, c'est vivre dans notre vie, dans notre quotidien, ce que nos paroles disent en termes d'émouna. Concrétiser la émouna quand on a une épreuve qui se présente à nous, ça s'appelle vivre dans le bitachon. Dire à Akadosh Baruch Hu, je suis devant la difficulté que tu m'as mise dans cette épreuve, c'est toi qui sais ce que tu fais. Moi, j'ai confiance en toi, Kadosh Baruch Hu, que tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Et que si je dois passer par cette épreuve, les piqûres, les docteurs, les opérations, les ponctions, les transferts, les attentes de résultats, c'est ton domaine, Kadosh Baruch Hu. Moi, j'ai la émouna que tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Et donc, quand vient notre épreuve, qu'on doit faire les piqûres, qu'on doit se présenter devant le médecin, ne pas se laisser abattre. Et quand malheureusement, des fois, il y a la mauvaise nouvelle qui vient, ne pas se laisser abattre. Ok, on va faire comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a tout perdu. Il n'a pas baissé la tête. Il n'a pas baissé les bras. Il n'a pas abandonné. Il a recommencé. Et la vie de Rabbi Akiva est une succession d'épreuves, mais de réussites, de réussites, de réussites. Toute sa vie, Rabbi Akiva, il était dans le positif. Il y a une histoire. Un épisode qui nous montre comment il avait un esprit complètement différent, une vision complètement différente. Une fois qu'il s'est accroché à Kadosh Baruch Hu, il s'est accroché à Kadosh Baruch Hu de toutes ses forces. Quand un jour, Rabbi Akiva, Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, ils devaient aller en mission à Rome. En partant pour aller à Rome, ils se sont arrêtés à Yerushalayim, sur les ruines du Beth Amikdash. Ils sont arrivés, les ruines étaient encore fumantes. Ils ont vu un renard sortir. Les deux autres rabbanim, ils se sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiva, il s'est mis à rire. Alors, les Tanaïm, ils ont dit à Rabbi Akiva, mais pourquoi tu rigoles? Alors lui, il a dit, mais pourquoi vous pleurez? Eux, ils ont dit, on pleure parce qu'on assiste, on est devant les ruines du Beth Amikdash, la maison d'Hachem. Et on voit sortir un renard du Saint des Saints, du Kodesh HaKodashim, l'endroit où le Kohen Gadol rentrait une seule fois par an. Alors, il n'y a pas de quoi pleurer. Et toi, pourquoi tu rigoles? Il a dit, moi, pourquoi je rigole? Parce que dans la Torah, il y a écrit, Hachem a superposé deux prophéties. La première prophétie dit, Tzion sera labourée et tout sera détruit. La deuxième prophétie qui est juste juxtaposée, c'est Azimale sirok pinu ulshone nourina. C'est aussi, il y aura des vieilles personnes et des jeunes hommes et des jeunes filles reviendront. L'idée, c'est que Yerushalayim renaîtra de ses cendres, il y aura de nouveau des rires et des joies, et il y aura de nouveau des mariages, et il y aura de nouveau des habitants. Alors, Rabbi Akiva, il a dit, tant que la première prophétie ne s'était pas réalisée, on ne pouvait pas attendre la deuxième prophétie. Maintenant que la première prophétie s'est réalisée, que Tzion a été détruite, que Yerushalayim a été labourée, on peut espérer et attendre que la deuxième prophétie se réalise. Voilà ce qui résume Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était toujours dans le positif, toujours dans la simcha, toujours dans l'expectative d'un monde meilleur, de quelque chose de meilleur, et avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il avait tellement bien compris que tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien, qu'il acceptait tout, Bessimcha. Et c'est ça la leçon qu'on doit tirer de Rabbi Akiva et de Rachel. Puisque qui dit Rachel, dit Rabbi Akiva, qui dit Rabbi Akiva, dit Rachel. Toute sa vie, Rabbi Akiva a mis sa femme sur un piédestal parce qu'il savait qu'il lui devait tout. On dit que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Là, c'est le cas Vraiment. Et il n'a pas joué les misogynes en disant bon, voilà, c'est pas, c'est moi, c'est ma Torah. Non, 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 non. Toujours Rachel, toujours Rachel, toujours Rachel. D'ailleurs, quand ils étaient au plus fort de la pauvreté, un jour elle s'est levée, elle avait de la paille sur les cheveux, puisqu'ils dormaient ils n'avaient même pas de matelas, même pas de lit, ils dormaient sur la paille. Et il lui a dit, un jour, je te commanderai une couronne avec Yerushalayim shel Zahav. Et il a fait, parce qu'une fois qu'il est revenu avec ses 24 000 élèves, Kalba Savoie il était venu le voir pour lui demander s'il pouvait annuler son vœu. Et Rabbi Akiva, il lui a dit, si tu avais su que ta fille, ton gendre allait devenir un grand tzaddik comme moi, est-ce que tu l'aurais fait ce vœu? Il a dit, non, j'aurais jamais fait ce vœu. Alors il lui a dit, c'est moi Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva a hérité de la moitié de la fortune de Kalba Savoie. Donc finalement, il a tout eu. Finalement, il a tout eu. Il a eu la Torah ce monde, le monde futur, et il a eu le monde matériel. Et pour terminer la vie de Rabbi Akiva, à 120 ans, il a été attrapé par les Romains parce qu'il étudiait, il enseignait la Torah en public, ce qui était formellement interdit à cette époque. Et malheureusement, il a été attrapé, ils l'ont mis sur un bûcher et ils l'ont peigné avec des peignes de fer. Alors, on ne peut pas comprendre les contes d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pourquoi? D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, quand il a vu, quand Hachem lui a montré toute la vie jusqu'à la venue du Mashiach, et qu'il a vu l'épisode de Rabbi Akiva, il lui a dit, c'est ça la Torah et c'est ça son Zot Torah et Zot Srara, c'est ça sa récompense. Hachem lui a dit, ne te mêle pas, c'est mes comptes, c'est mes comptes. On ne peut pas comprendre et on peut pas poser les questions à Kadosh Baruch Hu parce qu'on ne peut pas avoir la réponse dans ce monde-ci. Donc, à ce moment-là, Rabbi Akiva, il fait le Shema Israël et il a un sourire. Faut bien comprendre qu'il ne souffrait pas à ce moment-là. Faut bien comprendre que c'était juste physique et en apparence. C'est sûr que Rabbi Akiva ne souffrait pas. Et il sourit et ses élèves lui disent, jusque-là, Rabbi Akiva, jusque-là, tu réagis pas. Il a dit, toute ma vie, j'ai lu deux fois par jour le Shema Israël, et qu'il faut aimer Akadosh Baruch Hu de toute son âme, de tous ses biens, et de toute son âme. De tout mon cœur, j'aimais Akadosh Baruch Hu, de tous mes biens, j'ai donné tous mes biens à la Tzedaka, mais de toute mon âme, comment le concrétiser? Mourir al Kiddush Hashem. Mourir al Kiddush Hashem, c'était ça pour lui, la quintessence de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et il est mort en disant Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il est mort en disant le mot Echad. C'est ça sa vie, Akadosh Baruch Hu, de Rabbi Akiva. Une fois qu'il a compris que Akadosh Baruch Hu n'était que bonté, était que générosité, miséricorde, et c'était lui le maître de tout, toute sa vie, il a aspiré 120 ans de vie, il a aspiré à cet amour d'Akadosh Baruch Hu jusqu'à ce qu'il soit parti. Son âme, elle s'est envolée comme le baiser d'Akadosh Baruch Hu. Vraiment. Donc, on peut retenir ça de Rabbi Akiva et de Rachel, bien évidemment, puisque c'était sa femme, le couple qui était indissociable. L'amour d'Akadosh Baruch Hu. Plus on aime Akadosh Baruch Hu, et plus on le reçoit en retour. Et quand on reçoit l'amour en retour d'Akadosh Baruch Hu, on reçoit l'amour de l'être infini, de l'être suprême, de l'être qui est au-delà de tout, de toutes les capacités et de toutes les choses, qui est au-delà de la nature. S'attacher à Akadosh Baruch Hu, quand on s'attache à Akadosh Baruch Hu, nous, petits êtres humains que nous sommes, avec aucun pouvoir entre nos mains, le seul pouvoir qu'on a entre nos mains, c'est de cultiver notre amour pour Akadosh Baruch Hu. Ça, Hachem, il ne peut pas le faire à notre place. Cultiver notre Emunan, cultiver notre Bitachon, Hachem, il ne peut pas le faire à notre place. C'est le cadeau que nous, on peut offrir à Akadosh Baruch Hu, c'est de s'attacher à lui de toutes nos forces, de toute notre âme, de tous nos biens et de tout notre cœur. Et le retour de quelqu'un comme ça, de quelqu'un qui s'attache de toutes ses forces à Kadosh Baruch Hu, d'avoukba à Kadosh Baruch Hu, les résultats seront au-delà de nos espérances. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.